15h30, 16h sur Fadjet, à vous l'antenne. À vous l'antenne.
Bonjour à tous et bienvenue à Neuf Maisons dans les locaux de l'association Roue Libre pour cette émission un peu spéciale retransmise sur les ondes de la coordination des radios associatives de Lorraine. Une émission spéciale puisque nous aurons l'honneur dans quelques secondes de pouvoir échanger, débattre peut-être, en tout cas partager avec non pas un, non pas deux, mais cinq ministres de notre gouvernement. J'ai fait le calcul, c'est presque un sixième, c'est 15% du pouvoir exécutif de notre pays. C'est un grand honneur. On va peut-être pouvoir changer les choses aujourd'hui. Et face à eux, nous avons invité, avec le concours de la Fédération des œuvres laïques de Meurthe-et-Moselle, six représentants de junior associations, six jeunes de 14 à 19 ans, qui, malgré leur âge, s'engagent, se mobilisent pour faire vivre leur projet et affirmer leur vision de la citoyenneté. Merci à tous d'être présents autour de cette table. On doit excuser Valentine, qui est clouée à son lit, puisqu'elle a la grippe, elle a 42 fièvres, elle devait venir.
Bon, il souhaite de se rétablir rapidement.
J'espère qu'elle nous entend en tout cas. Petit tour de table avant de commencer. Nous avons donc autour de la table Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, bonjour.
Bonjour.
Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative, bonjour.
Bonjour.
Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'Économie sociale et solidaire et de la Consommation,
bonjour.
François Lamy, ministre délégué chargé de la Ville,
bonjour.
Michel Delaunay, ministre délégué chargé des Personnes âgées et de l'Autonomie, bonjour. De l'autre côté, nous avons Anan Bena, de la junior association California Dream, qui organise un voyage culturel aux États-Unis avec les jeunes d'une zone urbaine sensible. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons Marion Kubler, de la Clique Émotion, autour de la photographie, de la protection de l'environnement et des animaux. Bonjour Marion. Baptiste Sesma, de la web radio Future Station, donc que tu as créée et que tu exploites, on en parlera tout à l'heure. Bonjour. Hugo Leclerc, de la junior association Les Petits Chardons Sablés, c'est comme ça qu'on prononce, hein, avec la création de spectacles théâtrales pour un projet de solidarité avec le Mali. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Et enfin, Thomas Fabry, de la Lorraine Parcours Family, donc qui fait la promotion et la pratique de ce sport très urbain et très nouveau.
À vous, l'antenne.
Petite présentation de Radio Déclic, je me présente donc Simon. Radio Déclic, c'est donc porté par l'Association pour la communication en terre de Lorraine, qui existe depuis 1984 et qui est née de la volonté de jeunes agriculteurs et d'enseignants. C'est une fusion un petit peu bizarre et qui aboutit donc à cette radio qui contribue au développement local et à l'éducation populaire. Au bout de plus de 25 ans de service, la radio a réussi à stabiliser 5 emplois en CDI, ce qui n'est pas toujours évident pour une association. Et nous avons cette année employé quelqu'un en emploi d'avenir. Elle est reconnue d'intérêt général depuis 2013, ne fait aucune publicité sur ses ondes, comme la plupart des radios associatives, et donc ne vit que de subventions. Ses missions, la dynamisation du territoire, le développement économique, la diffusion de la culture, la lutte contre les discriminations, la promotion de la citoyenneté et évidemment la protection de l'environnement à travers les programmes de ses salariés, mais aussi de ses nombreux bénévoles, et j'en profite pour les saluer. La radio fait aussi partie de la CRAL, la coordination des radios associatives de Lorraine, avec qui nous faisons des actions collectives, puisque cette émission sera rediffusée sur d'autres radios du département et même de la région, et puis aussi tout simplement pour du prêt de matériel, comme quoi entre associations on peut s'entendre. Nous allons donc commencer cette émission immédiatement avec une question pour Monsieur le Premier ministre. Votre engagement politique actuel n'est plus à démontrer, mais qu'en est-il de votre engagement associatif? Est-ce que quand vous étiez encore plus jeune que vous ne l'êtes aujourd'hui, vous étiez membre d'une association et qu'est-ce que vous y faisiez?
J'ai commencé assez tôt à m'engager. J'étais lycéen et j'étais dans un lycée public et je me suis engagé dans un mouvement qui s'appelle le MRJC. Ça vous dit peut-être quelque chose. Le hasard a fait que, en venant ici jusqu'à Nancy par le train et le TGV, j'ai rencontré le président de ce mouvement et puis Dominique Potier, qui est député depuis peu, hein. On a fait connaissance d'ailleurs dans la campagne des élections législatives en 2012. J'étais venu le soutenir comme d'autres candidats dans cette région et j'ai découvert qu'il était du même mouvement que moi, alors un peu plus jeune que moi, mais je vais vous dire, c'est un mouvement d'éducation populaire avec sa connotation d'engagement catholique, mais c'est d'abord un mouvement qui m'a permis de me former, alors que justement, je vous ai dit, j'étais au lycée, donc élève, préparant le bac et mes études. Et puis dans ce mouvement, j'ai été à une autre école, en quelque sorte, une école complémentaire, en quelque sorte, l'école de la rencontre avec de différents milieux. les milieux des jeunes issus de l'agriculture, des ouvriers, des commerçants, des artisans. Donc la diversité aussi de la France. Donc c'était et alors le hasard a fait que j'avais dû m'engager, je crois, en 66. Donc vous voyez, c'est quand même très très vieux. Et puis après, il y a eu les événements de mai 1968. J'étais encore au lycée et je me suis engagé. C'était dans la région de Cholet, à Cholet même, dans le Maine-et-Loire, dans l'Ouest. J'étais loin de Paris, des grands événements de Paris. Et ce qui m'a conduit à m'engager, puis après ça m'a permis de m'engager plus tard aussi en politique, c'était le fait d'avoir participé à un mouvement d'éducation populaire qui m'avait éclairé sur les attentes de la société. Il n'y avait pas que, je dirais, mon engagement lycéen, il y avait ce que j'avais appris là, dans une sorte d'université populaire. Et tout à l'heure, quand j'ai entendu le témoignage du maire Jean-Paul Vinchelin, j'étais très touché parce que il a sans doute eu d'autres parcours. Mais je pense que dans la formation de la jeunesse, aujourd'hui, il est très important d'avoir des multiples expériences et vos témoignages, nous allons entendre là, et vos engagements associatifs en sont particulièrement révélateurs. Il y a une grande diversité. C'est important qu'à côté de l'école, qui est fondamentale, qu'il faut absolument soutenir et développer, c'est bien d'avoir aussi des expériences dans la vie professionnelle, dans la vie associative, dans d'autres engagements. Et c'est le sens aussi du service civique. Et les jeunes qui font des études, par exemple, et qui vont faire 6 mois, 7 mois, 8 mois comme service civique, je peux vous dire que leur vie change parce qu'ils ont un autre regard, ils voient d'autres personnes. Donc c'est un peu mon histoire, ma façon. Et je voulais, vous m'avez demandé d'en faire le témoignage, je le fais bien volontiers. Et en vous disant que si je suis venu avec de nombreux ministres aussi aujourd'hui à Nancy, c'est pour encourager l'engagement associatif, mais qui est déjà très fort dans notre pays. C'est 16 millions de bénévoles et de plus en plus de jeunes. Donc ceux qui se découragent, ceux qui pensent qu'on est de plus en plus individualiste, qui regardent le mouvement associatif, qui regardent les personnes qui s'engagent, et verront qu'il y a des raisons d'espérer.
Marion, est-ce que tu peux un peu nous parler de ce que ça veut dire pour toi, l'engagement dans ton association ?
L'engagement pour nous, c'est la citoyenneté, donc faire des actions pour réunir les gens autour d'actions de solidarité. Donc on les aide, de l'environnement, protéger l'environnement, et puis de se réunir autour de moments dans du temps libre, comme faire des trucs autour de la culture, du sport, des choses comme ça.
Est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui t'indignent, finalement, dans ce qu'on fait à la nature, à l'environnement, aux animaux ?
Oui, dans notre association, on souhaite dénoncer la maltraitance des animaux. Donc on essaye de les protéger en aidant l'association, la SLPA. Donc, c'est comme la SPA, sauf que c'est pour la Lorraine, donc elle est indépendante. Donc on les aide en leur donnant des dons par des calendriers, des mugs et d'autres objets qu'on fait.
Hugo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton engagement qui est un peu particulier puisqu'il sort des frontières de la France ?
Oui, voilà. Alors déjà, mon engagement, je crois que c'est par solidarité, par envie de faire plaisir, parce qu'on joue nos spectacles devant des enfants de maternelle et primaire. Et puis, c'est aussi de partager ses compétences, en faire profiter les autres, car chacun a des compétences et mérite de les faire partager. Et c'est aussi apprendre une école complémentaire, disait le monsieur le Premier ministre, et je suis d'accord. C'est donner de son temps libre pour apprendre des choses et pour donner d'autres choses.
Madame Fourneron, vous avez peut-être une réaction à ce que vous avez entendu.
Une réaction d'abord, il y a une responsabilité qui est à la fois le sport, la jeunesse, l'éducation populaire et la vie associative. Et finalement, en vous entendant, on voit toute la cohérence de la responsabilité qui m'a été confiée par le Premier ministre. À la fois la force de la vie associative dans notre pays, mais aussi la confiance à la jeunesse. Cette jeunesse, quand on lui transmet cette confiance, elle est au rendez-vous. Elle s'engage dans le monde associatif pour des causes diverses, mais elle est au rendez-vous de cet engagement. Et donc pour nous, ce qui est essentiel, c'est qu'on puisse lui permettre d'avoir cette expérience d'éducation populaire, d'avoir cette expérience de construire une association, d'acquérir en complémentarité avec le temps d'école d'autres compétences, d'autres expériences, et puis ensuite de les valoriser. Et c'est un engagement, je veux dire, que nous avons pris de pouvoir co-construire nos politiques publiques avec les jeunes. Pouvoir se dire, la priorité jeunesse du gouvernement, elle ne peut pas être construite sans travailler avec les jeunes, sans leur donner une place dans les institutions politiques. C'est toute la démarche autour du non-cumul des mandats, mais lui donner aussi une place dans chacun de nos institutions consultatives. Et on a voulu que pour la première fois, dans les conseils économiques et sociaux dans toutes les régions, il y ait plus de place pour les jeunes. Les politiques qui les concernent en termes d'emploi dispositif d'emploi d'avenir, garantie jeune pour ceux qui n'ont pas de qualification. Et on a travaillé ces politiques avec le Forum français de la jeunesse, c'est-à-dire le regroupement de toutes les associations de jeunes, pouvoir leur donner la parole. Pour moi, c'est essentiel, car quand on fait confiance aux jeunes, ils sont au rendez-vous. Ils ne sont pas du tout, et on le voit avec cette table, des jeunes qui sont refermés sur eux-mêmes, sur leurs réseaux sociaux. Ils sont solidaires, généreux, ils ont envie, comme nous, de faire vivre un territoire comme ici, ou de faire vivre un pays, le nôtre, avec ses vraies valeurs de cohésion sociale, ses vraies valeurs de citoyenneté et de solidarité. Et donc, on a vraiment confiance dans la jeunesse et donc le souhait de partager nos politiques publiques avec les jeunes.
Alors, je vais nuancer un tout petit peu votre discours. La confiance, elle n'est pas forcément totale dans le cas des juniors associations, notamment avec Baptiste, qui, lui, rencontre des difficultés dans son projet par rapport à des revenus commerciaux qu'il voudrait toucher. Est-ce que tu peux nous en parler, Baptiste ?
En effet. Alors, donc, comme l'a expliqué Simon en début d'émission, j'ai créé une web radio à l'âge de 14 ans. C'est donc un projet qui a constamment besoin de fonds afin de financer droits d'auteur, serveurs, musique, etc. Donc, jusqu'à présent, on a eu la chance de pouvoir vivre de subventions. Mais arrive un moment où les subventions s'épuisent et il faut devenir autonome. Donc nous, pour ce type de projet, la seule source de revenus possible, c'est les recettes publicitaires. Mais il faut savoir qu'avec le statut junior association, il n'est pas possible de générer des recettes publicitaires. C'est ce qui m'a amené à transformer récemment la junior association en association de l'homme 901. Mais c'est avec surprise que j'ai appris que ce type d'activité était imposé sur l'impôt sur la société. Donc moi, j'aurais une question à poser à M. Hamon.
Attention à la fiscalité. Hein.
Trouvez-vous normal qu'une association gestion désintéressée, composée entièrement de bénévoles, et qui a une seule source de revenus possible, soit imposée sur la société ?
C'est la loi, c'est normal. Première réponse. Non, mais plus sérieusement, on est en train de réfléchir à la façon dont on va soutenir tout le secteur privé non lucratif, dont le secteur associatif, de façon à ce qu'il y ait aujourd'hui une fiscalité qui encourage à la fois l'activité, mais aussi les créations d'emplois, parce que c'est un secteur qui est extrêmement créateur d'emplois. Et le Premier ministre, le gouvernement est parfaitement conscient aujourd'hui qu'il peut exister un certain nombre de freins à l'investissement du secteur privé non lucratif, puisqu'aujourd'hui on parle de pacte de responsabilité. Le pacte de responsabilité, il est à l'endroit de tous les acteurs économiques, et on ne distingue pas un acteur économique selon que ce soit une société commerciale ou une société privée non lucrative. Ce qui nous intéresse, c'est que tous les acteurs économiques contribuent à la croissance et donc aux créations d'emplois. Et cette année, dans le courant de l'année, nous allons discuter de l'environnement fiscal de l'ensemble de ces acteurs économiques et des contreparties que nous en attendons, évidemment, en termes de création d'emplois, de qualité de l'emploi, etc. Donc je peux vous dire qu'une chose est sûre, c'est que depuis un an et demi, il y a dans le radar du gouvernement les acteurs économiques, quelle que soit leur nature. Pas simplement les sociétés commerciales classiques. C'est pour ça qu'il y a un ministère de l'économie sociale et solidaire, parce que nous considérons que tous les acteurs économiques, quel que soit leur statut et le choix qui est le leur, lucratif ou pas lucratif, méritent d'être pris en compte par les politiques publiques. Ils le sont d'ores et déjà depuis un an et demi. Il y a des mesures fiscales très importantes. Je rappelle, puisqu'on est à la radio, que toutes les associations qui emploient bénéficient désormais d'un abattement à la taxe sur les salaires de 20 000 euros. Il était de 6 000 euros, c'est l'équivalent d'une subvention de 14 000 euros. 70% des associations françaises qui payaient de l'impôt n'en payent plus grâce à ce gouvernement. C'est cette année que ça tombe. C'est bon pour les trésoriers et les présidents d'associations. Profite pour le rappeler, c'est une mesure qui a coûté 314 millions au budget de l'État. C'est pas mince, et surtout dans une période où on le sait, il faut faire des efforts en matière de dépenses publiques et où nous réduisons les déficits. Mais cet engagement, il a été pris et il va directement dans les caisses des associations sous la forme d'un impôt en moins à payer.
Hugo, toi, tu voulais nous parler de la simplicité administrative ou plutôt de la non-simplicité administrative.
Voilà. Moi, j'aurais voulu parler plus globalement des besoins. Et je crois qu'on arrive vite sur le point qu'il y a trop de difficultés administratives, trop de papiers. Pour avoir accès à des locaux, il faut dialoguer avec on ne sait qui. C'est pas toujours facile. Et ma question, c'est aujourd'hui, alors de l'élargissement perpétuel des libertés individuelles, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de donner plus de liberté aux personnes morales, notamment aux associations et junior associations, pour faciliter leur fonctionnement ?
Oui, il y a un gros chantier qui a effectivement été lancé sur l'ensemble des simplifications administratives, suppression d'un grand nombre d'obligations de déclarations multiples, dématérialisation au maximum, mais on a encore du travail à faire sur ce champ-là. Avec mon voisin François Lamy, on a fait le constat que pour les associations qui étaient dans les quartiers populaires, ben ils avaient à remplir, par exemple, deux fois le même dossier, un pour être soutenu, par exemple, une association sportive dans un quartier populaire, et un pour être soutenu par l'accès, donc par la politique de la ville. Donc il y a encore des chantiers de simplification sur lesquels nous devons être au rendez-vous, des déclarations, par exemple, d'établissements de sportifs qui doivent faire une multitude de déclarations. Mais quand on passe le BAFA, on a aussi, je veux dire, toute une procédure qui est encore trop longue. Donc l'ensemble de ces simplifications sont notre quotidien pour être finalement au service avant tout de l'usager, surtout de ceux qui s'engagent, parce que quand on prend du temps dans l'engagement associatif et que les trois quarts de son temps sont dans du temps administratif et pas pour son association, effectivement, aujourd'hui, on a de quoi être déçu, et pour ça que ce grand chantier de simplification, il est absolument nécessaire pour l'ensemble du public et l'ensemble du réseau associatif.
Hugo, je te redonne la parole.
Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment important de simplifier tout ce qui est administratif. Et je crois que le deuxième grand besoin, le nerf de la guerre un petit peu, c'est bien sûr l'aide financière. Est-ce que l'État ne pourrait pas faire plus de subventions, donner plus de subventions au réseau national des juniors associations, par exemple, ou à des échelons inférieurs, plus proches de nous? Je crois que les moyens financiers, c'est quand même ce qui nous bloque ou ce qui nous permet d'avancer, justement.
Ah, qui veut répondre,
Ou peut-être les villes, peut-être les villes devraient donner plus d'argent.
Benoît Hamon a déjà évoqué, tout à l'heure en termes financiers, je veux dire une mesure qui est extrêmement importante. Elle va vraiment toucher 70% des associations aujourd'hui qui ont moins de 20 salariés, c'est-à-dire toutes les petites associations, et pour des salaires qui vont jusqu'à 2,5 fois le SMIC, c'est-à-dire la très grande majorité du secteur associatif. Et puis, il y a également l'ensemble des aides qui sont apportées aux réseaux nationaux. C'est effectivement la mission du gouvernement d'être en rendez-vous avec l'ensemble des réseaux nationaux. C'est vrai qu'on descend un petit peu moins dans la proximité au niveau des engagements nationaux. Pour la première fois également, l'ensemble des subventions et du soutien à tous les grands réseaux d'éducation populaire n'ont pas été diminués ces deux dernières années. Tous les moyens ont été maintenus alors que précédemment, la montée en puissance du service civique s'était faite au détriment des grands réseaux associatifs. Pour la première fois, nous avons été au rendez-vous de ces financements. Et il y a également toute cette place essentielle que l'on doit avoir et partager avec vous, d'accompagner des parcours d'insertion. Les emplois d'avenir, majoritairement, les associations ont été au rendez-vous pour accompagner des parcours de jeunes, pour aller jusqu'à une qualification et aussi pouvoir être avec une utilité sociale au sein du secteur associatif.
Monsieur Hamon.
Trois nouveautés en plus. Un, quelque chose sur lequel a beaucoup travaillé Valérie Fourneyron, le fait que demain dans la loi sera donnée une définition enfin de la subvention. Pourquoi est-ce qu'on l'avons fait? Parce que nous avons constaté que bon nombre de donneurs d'ordre des mairies hésitaient désormais à financer des associations par subvention, mais préféraient les mettre en concurrence. Résultat, quand on met en concurrence, seuls les plus forts s'en sortent, et les petites associations qui ont un projet associatif, parfois, mais renoncent à aller au terme de ce projet-là. Donc il y aura une définition. Ça, c'est un environnement juridique. Mais deux choses que nous faisons en plus, c'est ce qu'on appelle les titres associatifs. C'est un instrument de fonds propres qui va permettre à bon nombre d'associations de pouvoir se développer, et le fait que, selon l'engagement à la fois du président de la République et du Premier ministre, nous avons mis sur la table à la Banque publique d'investissement pour soutenir des projets d'investissement pour les acteurs de l'économie sociale, donc tous les acteurs associatifs, 500 millions d'euros. Avec un fonds d'innovation sociale, pour la première fois en France, on finance l'innovation sociale, alors qu'auparavant on finançait l'innovation technologique. C'est une avance remboursable, selon le principe selon lequel, si ça marche, eh ben vous remboursez, si ça marche pas, et écoutez, c'est un engagement qui aura été pris sans que... Donc on parie sur le risque, y compris dans le domaine social, et c'est une vraie rupture, parce que ces 500 millions d'euros, ils vont permettre à des projets associatifs de se développer dans des proportions beaucoup plus grandes que ce qu'on connaissait dans le passé. Donc il y a encore plus de palettes de financement qu'il n'en existait auparavant.
au-delà des besoins financiers, il y a aussi la nécessité grandissante de s'allier avec d'autres associations et de faire des liens entre les associations avec le monde privé. C'était peut-être un gros mot il y a encore 10 ans, mais aujourd'hui on en est presque obligé. Thomas, est-ce que tu peux un peu nous parler des différents liens que tu as pu créer avec ton association donc, qui fait la promotion du parcours?
Et bah, de par la discipline qu'on pratique, donc la discipline sportive du parcours, on a pu lier de nombreux liens avec d'autres associations, autant sur cette discipline que sur d'autres formes d'associations. On a pu donc lier des liens avec des locales jeunes et jeunesse pour pouvoir développer un peu notre sport et être vu comme une vraie discipline sportive et donc pouvoir évoluer un peu dans le monde associatif entre les autres associations.
Monsieur Lamy, je ne sais pas si vous connaissez la discipline, le parcours, ça concerne directement votre ministère, la ville. Est-ce que ça vous fait peur, ces acrobates urbains?
Pourquoi? Ah non, bien sûr. Vous savez, en matière de politique de la ville, rien ne me fait peur. On ne parle pas assez des cultures urbaines à l'intérieur de ce pays. Moi, je découvre effectivement à la fois du monde associatif, mais aussi des artistes qui font des choses fantastiques dans nos quartiers qu'on aurait besoin de mieux voir à l'intérieur de nos médias. Je voudrais juste quand même revenir sur ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure sur le soutien au monde associatif dans les quartiers qui relèvent de la politique de la ville, parce que c'est des fois encore plus compliqué de trouver le chantier qu'on va entamer avec Valérie Fourniron sur la simplification. C'est aussi d'abord la simplification du dossier, parce que pour connaître la petite histoire, en fait, la politique de la ville, elle souhaitait faire un dossier à part de celui du ministère de la Jeunesse et des Sports pour le simplifier. Voilà. Et résultat, le dossier est deux fois plus gros que celui de Jeunesse et Sports. Donc on va faire exactement la démarche inverse. Et surtout, on va privilégier les conventions pluriannuelles d'objectifs. C'est-à-dire que ça soit pas un financement annuel, mais qu'on puisse garantir une lisibilité à l'association sur la base du futur contrat de ville qui va être signé avec l'État. Mais également, et je reviens sur les questions de financement avec les maires, et puis on va élargir, parce que c'est pas toujours facile pour une mairie ou même pour l'État d'ailleurs, compte tenu du nombre de besoins qui existent d'augmenter ces financements. Donc on va élargir le nombre de financeurs aussi. Demander aux régions, ça a été voté par le Parlement, demander aux régions, aux départements de s'associer, et puis permettre aussi du financement de mécénat privé, parce qu'il y a beaucoup de demandes maintenant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, parce que depuis hier, les zones urbaines sensibles, ça n'existe plus.
D'accord. Ah, tu dois être contente, Anan, du coup.
Oui, super.
Tout à fait. Enfin, ça n'existe plus. Le mot n'existe plus. Les sigles, l'ensemble de ces acronymes ou de ces symboles qui stigmatisaient les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Vous avez parlé de diversité des financements, justement. Anan, justement, a compris qu'on ne pouvait pas compter que sur les subventions et vous avez mis en place plusieurs actions dans ton association, que ce soit des liens avec d'autres associations ou alors différentes actions. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, oui, tout à fait. On a mis en place quelques actions, comme des repas, des animations. On a aussi participé à des projets municipaux. On a déposé des dossiers de subventions, notamment dans les mairies, le conseil général, l'État travaille à travers l'accès, l'enveloppe parlementaire, et on a eu des actions et des dons.
Et ça a mis du temps, tout ça?
3 ans et demi, exactement.
Comment c'était vécu, du coup, par les jeunes qui...
Envie
de sortir un peu de leur quartier.
Ce qui était le plus difficile, on va dire, dans cette aventure de 3 ans et demi, c'était de maintenir le groupe, de garder le groupe, parce qu'il y en a beaucoup qui se décourageaient en 3 ans et demi. Et on a réussi à garder le groupe, et ça nous a permis d'évoluer, de gagner en maturité, de prendre des responsabilités.
Est-ce qu'il y a eu un problème de confiance entre, justement, vous, les jeunes, et puis au-dessus, les autorités qui disent « Ouais non, pourquoi on les enverrait aux États-Unis ceux-là »
Pas du tout, parce que justement, on a été suivi par une association qui s'appelle Kaleidoscope, qui fait de l'accompagnement scolaire et projets éducatifs de loisirs depuis presque 30 ans dans le quartier de la Californie à Jarville. Ils nous ont suivis et on a grandi dans cette association et ils nous ont aidés tout le long de notre projet.
Toujours avec les liens qu'on peut tisser avec l'extérieur, Hugo, tu avais une question.
Oui, j'ai une question, puisque donc, notre association est basée sur le fait de jouer des spectacles pour enfants. En relation avec l'éducation nationale, et ensuite de reverser l'argent au Mali. En tout cas, c'était notre première action. Et il se trouve qu'on a pu financer ou participer au financement avec l'aide d'une autre association en 1901, d'un puits dans un petit village dans le cercle de Ménaka, qui se trouve lui-même dans le cercle de Gao, donc en plein milieu des conflits actuels. Du coup, maintenant, nous nous redirigeons plus d'ailleurs sur l'hôpital pour enfants de Brabois où nous irons jouer nos spectacles. Mais je vous avais une question sur notre engagement au Mali, puisque nous avons quand même un engagement moral. On s'est attaché aux gens, même si on ne les a jamais vus, ou pour la partie des membres, ils l'ont vu, mais pas tous. Et j'avais une question qui concerne le comportement à adopter pour aider le Mali malgré la situation actuelle et pour faire perdurer nos liens et notre engagement moral envers eux, ce qui est au final le plus important.
Je crois que vous avez raison de poser cette question, puisque vous savez que quand le président de la République a décidé, à la suite d'un conseil de défense, d'engager les forces au Mali, c'était une décision très lourde. C'était le 11 janvier de l'année dernière et il y avait un objectif qui était d'arrêter l'arrivée des forces terroristes et djihadistes vers Bamako, qui aurait, si on n'avait rien fait, c'est le gouvernement du Mali qui a lancé cet appel à la France, c'est tout le Mali qui aurait été envahi et qui aurait perdu sa souveraineté, donc son indépendance, et qui serait aujourd'hui aux mains de ces groupes. Donc c'était une décision très courageuse, dangereuse aussi, puisque plusieurs de nos soldats y ont laissé leur vie. Et il faut encore rappeler ce sacrifice et saluer leur courage. Et en même temps, c'était très clair, l'objectif c'était de permettre au Mali de former son armée avec l'aide de l'Europe. C'était ensuite qu'une force internationale de l'ONU se substitue à la France. Donc c'était pas d'y rester, c'était pas de jouer les gendarmes, c'était d'aider le Mali à se reconstituer. Et donc ensuite, élection présidentielle, élection législative, tout ça est en place. La semaine dernière, j'ai rencontré l'actuel Premier ministre du Mali, qui fait un travail extraordinaire dans des conditions très difficiles, et nous avons parlé d'un des volets que vous venez d'évoquer, qui est le développement. Alors le développement, c'est à la fois l'aide publique de la France, qui est premier intervenant et qui respecte ses engagements, c'est aussi la communauté internationale et principalement l'Union européenne. Mais il y a aussi les ONG. Alors il y a les grandes ONG, et puis il y a des associations plus modestes, c'est votre cas, mais il ne faut pas négliger leur action. Parce que alors ce qui est important, je pense, comme vous avez cité l'exemple là, précis d'une action que vous avez menée, c'est d'avoir une relation presque personnalisée avec les gens qui habitent là-bas, qui vivent là-bas, pour qu'ils puissent être en quelque sorte vos correspondants, que même si vous pouvez y aller, ça sera encore mieux, même si aujourd'hui les conditions dans cette partie du Mali ne sont pas réunies. Oui. J'espère que vous aurez l'occasion d'y aller.
C'est
un
bien
jour.
Le problème d'ailleurs. C'est
oui,
que
mais pour l'instant, c'est pas, vraiment de communication. Pour l'instant, on ne peut pas prendre ces risques parce que si vous vous déplacez, ça veut dire qu'il faudra organiser votre sécurité. Donc c'est pas forcément quelque chose de simple pour les militaires qui sont là-bas, que ce soit les Français ou les Maliens ou la force des Nations Unies. Donc il faut prendre un peu patience. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Le Mali veut aujourd'hui, après avoir retrouvé son indépendance, sa souveraineté politique et démocratique, se développer. C'est un pays qui est pauvre, mais en même temps, il y a une dignité, une volonté de s'en sortir. Et donc, même si c'est modeste, c'est très important, c'est très utile. Ça vous permet, vous, de vous engager. C'est un bel engagement. Et puis, en même temps, de faire partager à d'autres, et notamment, peut-être, pas seulement les jeunes, mais aussi les habitants de votre région, une action qui est indispensable et qui est une action de solidarité internationale qui porte aussi des valeurs. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler.
On approche déjà de la fin de cette émission. Et Thomas avait une question à nous poser, à vous poser, sur la promotion des juniors associations.
Alors, est-ce que dans les années futures, vous encouragerez de plus en plus les jeunes voulant fédérer leurs projets, et surtout, enfin, comment vous feriez pour le faire?
Madame Fournier.
Comme je l'évoquais tout à l'heure, pour nous, c'était essentiel de reconnaître la place des jeunes dans le dialogue permanent que l'on doit avoir pour construire les politiques publiques qui les concernent. Reconnaître les jeunes à la fois dans leur engagement, au moment où ils s'engagent dans leur mouvement d'éducation populaire, et puis valoriser. Parce que vous, les uns et les autres, vous allez acquérir, à l'occasion de cet engagement dans votre junior association, des compétences. On a besoin de reconnaître ces compétences, de les valoriser. Quand on s'engage dans un service civique, on acquiert aussi d'autres compétences. D'ailleurs, souvent, on devient soi-même, à la suite d'un service civique, quelqu'un de militant, engagé dans une association. Et la première étape sur laquelle nous avons travaillé, c'est qu'il y ait une reconnaissance de cet engagement associatif des jeunes. Donc, à l'université, on appelle ça des ECTS, des heures, finalement, qui valorisent les heures que vous avez passées, votre engagement militant dans l'association. Pouvoir avoir cette approche que, finalement, on n'acquiert pas des compétences et des savoir-faire que dans un parcours académique classique, à l'école, à l'université, dans un enseignement supérieur, mais qu'on en acquiert d'autres qui sont tout aussi utiles. dans un parcours d'insertion professionnelle, dans une association, dans une junior association. On acquiert effectivement d'autres compétences qu'il faut mieux valoriser. Juste un petit exemple. L'année dernière, on a fêté les 50 ans d'Office franco-allemand de la jeunesse. Il y a eu beaucoup d'échanges avec les jeunes Allemands et les jeunes Français. Et tous les jeunes Allemands nous disaient, moi, mon engagement associatif, mon engagement à l'OFAGE, je le mets en premier dans mon CV. Parce que c'est valorisé quand je recherche du travail en termes de ressources humaines. Parce qu'on sait que dans mon engagement associatif, j'ai acquis des compétences qui vont me servir dans mon emploi. Les jeunes Français, ils étaient un petit peu sur la défensive, disant moi, je ne le mets pas en premier parce que j'ai l'impression qu'on va avoir l'impression que je ne veux pas travailler, que je veux m'occuper de mon association en matière d'environnement, en matière de culture, en matière de sport. Et donc, je suis un peu dilettante. Et il y avait une approche qui était complètement différente parce qu'on n'a pas encore suffisamment, tous ensemble, et ben, valorisé ce qui était l'engagement des jeunes en dehors d'un parcours d'enseignement supérieur. Et ça, c'est essentiel qu'on puisse travailler avec la ministre de l'enseignement supérieur, on a commencé là-dessus, autour du service civique, pour que votre engagement soit officiellement reconnu et puis que derrière, dans votre parcours d'insertion professionnelle, il puisse être un véritable atout.
Marion, on t'a pas beaucoup entendu. Comment tu vois le futur de ton association ? Est-ce que tu te vois travailler dans le même domaine ou peut-être, pourquoi pas, la faire grandir cette association et employer des gens ? Comment tu vois ça ?
Non, on pense rester une association normale. Bon, pour l'instant, on n'y a pas beaucoup réfléchi parce qu'on est une association toute jeune et dans un premier temps, on aimerait juste exposer nos photos et nous faire un peu plus connaître.
J'espère qu'en tout cas cette émission va te servir. Je rappelle que Marion, à 14 ans, c'est la plus jeune autour de cette table. Hugo, tu avais une dernière question pour Monsieur le Premier ministre.
Oui, voilà, j'avais une dernière question. Je sais que la fin approche, donc j'en profite aussi pour rappeler que nous avons la chance quand même d'être dans un beau pays, dans un pays où il y a de l'engagement associatif et où les libertés sont respectées quand même beaucoup comparé à d'autres pays qui sont en ce moment dans l'actualité. Voilà, je voulais dire ça d'abord. Donc on a parlé du maillage associatif tout à l'heure. Et je crois que c'est une bonne idée d'intégrer dans la charte que vous allez signer tout à l'heure les collectivités territoriales, puisque c'est des structures qui sont plus proches de nous. Et donc ma question, tout simplement, aurait été de savoir, de connaître les grandes lignes de cette charte, puisque j'imagine qu'elle fait un nombre de pages conséquent.
Oui, on ne va pas faire la présentation de la charte. Je crois que tout ce que nous avons dit là, c'est contenu dans la charte en définitive. Simplement, vous ajoutez que dans les partenariats, il y a bien sûr l'État que nous représentons, mais il y a aussi, et puis tout le monde associatif dans sa diversité, et puis il y a aussi les collectivités territoriales, de plus en plus présentes, et qui sont celles qui sont les plus proches des associations. Et donc, dans cette charte, elles sont signataires, elles sont reconnues en tant que telles, que ce soit les représentants des mairies, départements, régions, mais ici... Ça sera, c'est d'autant plus le choix de Nancy, de la région de Nancy est d'autant plus pertinent que l'engagement associatif est lié aussi à la renaissance d'un territoire qui a connu dans le passé des traumatismes industriels et sociaux et humains. Et par cet engagement, cette solidarité qui était liée aussi à l'histoire industrielle et ouvrière de cette région, eh bien ceux qui se sont engagés à un moment... se sont dit, ben, par l'engagement associatif, par des initiatives dont certaines ont des dimensions économiques, éducatives, sociales, environnementales, on va relever le défi du redressement. Et c'est pour ça que c'est important de le faire ici. Puis dernière chose, deux choses que je voudrais dire pour conclure, c'est que je recevrai à la fin du mois, avec particulièrement Valérie Fourneyron, mais je pense qu'il y aura aussi d'autres ministres, ceux qui sont ici sont les bienvenus, le Forum français pour la jeunesse. C'est un ensemble d'associations de toute sensibilité qui travaillent, qui sont fédérées, qui ont des choses à dire, et on fera le bilan. Et au-delà de cette rencontre, à la radio, là, aujourd'hui, je suis sûr que beaucoup de points que vous avez évoqués seront à l'ordre du jour. Dernière chose que je veux dire, c'est que j'annoncerai officiellement tout à l'heure que la grande cause nationale que j'ai choisie pour l'année 2014, c'est la cause de l'engagement. L'engagement associatif, pour le mettre en valeur. Et le mettre en valeur, pas seulement de façon théorique, mais aussi en montrant à travers des témoignages comme les vôtres, l'engagement citoyen, le lien social, et c'est très important de le cultiver, de l'entretenir, parce que c'est ça qui fait la cohésion de notre pays. C'est ça qui fait la confiance. Et c'est ça qui fait aussi la fidélité à nos valeurs. Et vous l'avez dit dans votre propos, quand vous m'avez posé votre dernière question, vous avez parlé des valeurs, hein, et vous avez dit qu'on avait la chance de vivre dans un pays de liberté, d'un pays de démocratie. Mais rien n'est jamais acquis. Il faut toujours résister à tous ceux qui veulent nous entraîner sur des pentes dangereuses et glissantes, et qui sont plus soucieuses de pointer l'autre dans sa différence, de mettre en confrontation les uns avec les autres. Nous, on voudrait que le pacte républicain, le vivre ensemble, soit quelque chose de concret. Eh bien, à travers vos engagements, vous y contribuez fortement. Et vous êtes là, 5 jeunes, engagés, mais derrière vous, il y en a d'autres, mais vous êtes des centaines de milliers, des millions peut-être en France. Donc c'est ça aussi la jeunesse de France. C'est important de le dire, donc d'être fier de ça aussi, et de se dire que tous ceux qui, parfois, se découragent, eh bien, il y a des gens qui relèvent la tête, même modestement, avec des fois des difficultés, vous en avez parlé, mais qui ont bien raison de le faire, et nous sommes là aussi pour les soutenir, les encourager et les reconnaître. Et c'est ça aussi le sens de la grande cause nationale 2014, celle de l'engagement citoyen, c'est-à-dire qu'on donne aussi quelque chose pour les autres, pour la collectivité.
Ainsi s'achève cette émission. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci Valérie Fourneron, Benoît Hamon, François Lamy, Michel Delaunay, Annette Bénard, Marion Kubler, Baptiste Sesma, Hugo Leclerc et Thomas Fabry. Je souhaiterais aussi remercier l'association Roue Libre, la ville de Neuve-Maisons, la coordination régionale des radios associatives, la Comcom de Moselle et Madon, le conseil général de Meurthe-et-Moselle, la fédération de l'œuvre laïque et Sylvie, surtout, Augier et Alban, mes deux techniciens. Au revoir à tous.
À vous l'antenne. À vous l'antenne.